Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, stopper ce scandale et ce carnage, c'est l'appel des syndicats de General Electric au gouvernement après l'annonce de 1000 suppressions de postes hier. Nous allons à Belfort, une mobilisation se prépare pour les jours à venir. L'industrie qui peine et l'industrie qui gagne. Airbus fête aujourd'hui ses 50 ans. Un avion Airbus atterrit ou décolle dans le monde toutes les 2 secondes. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait le succès de ce projet européen? Peut-il ou pas être copié dans d'autres domaines? Airbus du train, de la batterie, de la voiture. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, Gilles Babinet. La politique après les élections de dimanche, Marine Le Pen à Bruxelles pour tenter de former un groupe unique d'extrême droite au Parlement européen. La majorité fait des signaux de fumée aux élus de droite pour les municipales. Ce ne sera pas si simple, nous dira Karine Bécard. L'actualité à l'étranger, bonjour Étienne Monin.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Étienne, crise politique aiguë en Israël, il ne reste plus que quelques heures pour la dénouer.
Oui, on est dans un compte à rebours. S'il n'y a pas de gouvernement ce soir minuit, la Knesset devrait voter sa dissolution.
Les détails tout à l'heure avec vous en direct de Jérusalem. Dans ce journal encore, les mises en garde du comité d'éthique à propos de l'usage de nos données personnelles dans le domaine de la santé. Grâce à Yann Gallic, nous irons 40 mètres sous terre avec les ouvriers qui creusent la ligne de métro du Grand Paris.
Oui, il y a une grande râpe à fromage de forme circulaire qui tourne, qui du coup concasse le terrain. Quand tout va bien, on arrive à creuser en moyenne 15 mètres par jour.
Un reportage assez impressionnant, vous verrez. La terre ocre de Roland-Garros au programme aujourd'hui, Maître Federer et Nadal. Et un Tsonga Nishikori qui méritera bien un direct de Fabrice Abgral tout à l'heure. Les premiers mots du nouvel entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Et puis la météo à la veille du long week-end de l'Ascension. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Quelle tendance pour aujourd'hui?
Eh bien pour aujourd'hui, c'est un ciel variable avec alternance de nuages et de belles éclaircies. Après-midi, plus ensoleillé autour de la Méditerranée, mais temps plus gris et faiblement pluvieux sur le nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation. Et les températures sont comprises entre 15 et 27 degrés du nord-ouest au sud-est.
Et le monsieur de Météo France nous confirme que le week-end sera beau.
Il sera très ensoleillé et surtout très chaud pour la fin de semaine avec des maximales qui dépasseront les 30 degrés.
Vous voyez les yeux rouges?
Je vois les
c'est ceux de Bison Futé qui voient rouge aujourd'hui et demain au niveau national dans le sens des départs. Envie de lecture en ce long de week-end, un nouvel auteur en course pour le prix du livre inter. Tout à l'heure, au micro d'Eva Bétan, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Les grandes entreprises industrielles en difficulté. Beaucoup de présidents se sont cassés les dents sur ces machines-outils, hauts fourneaux et autres turbines. Chez General Electric à Belfort, on parle de turbines à gaz. Et voilà Emmanuel Macron accusé d'impuissance et de duplicité. Impuissance après l'annonce de plus de 1000 suppressions de postes hier à Belfort, là où il y a 4 ans, le président, alors ministre, vantait l'avenir industriel du site. Duplicité, c'est une accusation de l'opposition. L'annonce des suppressions d'emplois a été repoussée après les Européens. Le président le savait forcément, c'est un de ses anciens conseillers qui dirige General Electric en France. Alors sur ce deuxième point démenti de la porte-parole du gouvernement ce matin sur France Inter, on n'était pas plus au courant que les personnes concernées, dit Sibeth Ndiaye. Quant à l'accusation d'impuissance, eh bien les syndicats mettent le gouvernement en demeure à vous de réagir. Écoutez Philippe Petit-Collin de la CFE-CGC.
Aujourd'hui, le projet de GE consiste en un vaste plan de délocalisation massive d'activités. L'ingénierie va être délocalisée en Inde, en Pologne et au Mexique. La production va être délocalisée en Hongrie, aux États-Unis. Donc nous demandons au gouvernement de stopper ce scandale, ce carnage, qui n'a d'autre but de délocaliser les activités hors de France et qui n'est aucunement une adaptation au marché.
Bonjour Raphaël Ebenstein.
Bonjour.
Raphaël, vous êtes en direct de Belfort. Les syndicats promettent une mobilisation peut-être dès la semaine prochaine?
Oui, colère, grosse colère hein, même des représentants syndicaux de General Electric Belfort. On ne se laissera pas faire, crie-t-il en cœur, bien décidé à lutter contre cette restructuration injustifiable à leurs yeux. Les arguments de GE, General Electric, sont fallacieux selon eux. Il y a des possibilités de diversification d'activités, notamment dans l'aéronautique, pour un investissement qui serait inférieur à ce que l'entreprise a provisionné pour financer le plan social. Quant au gouvernement, donc, il est au mieux accusé d'inaction, au pire de complicité avec la direction de GE, qui a encore encaissé l'an dernier 15 millions d'euros de CICE et de crédit impôt recherche, et qui dépend en grande partie de la commande publique, avec des clients comme EDF, Airbus ou les hôpitaux de Paris. Bref, seul Emmanuel Macron peut mettre la pression sur GE, concluent les syndicats. C'est plus qu'un appel du pied, donc, et en parallèle, en tout cas, ces mêmes syndicats promettent déjà des actions pouvant aller jusqu'à des grèves ou des blocages, si besoin, probablement dès le début du mois de juin.
Merci Raphaël Ebenstein en direct de Belfort. Alors quelle réponse du gouvernement ? General Electric avait promis de créer 1000 emplois en France. Il en supprime 1000. Pour cela, il paiera une pénalité de 50 millions d'euros. Écoutez la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher.
Nous, on s'est préparé, c'est-à-dire qu'on a imposé à GE de mettre en place ce fonds de 50 millions d'euros de revitalisation industrielle. Ces 50 millions d'euros, ils doivent être utilisés pour réindustrialiser et ça ne doit pas être le seul effort que doit faire GE dans ce plan social. On attend d'eux d'être absolument exemplaires dans la façon de faire ce plan social. C'est une négociation qui commence, ça va durer plusieurs mois. L'objectif, c'est de minimiser l'impact social de ce plan.
Alors les dossiers industriels plus que délicats s'accumulent, General Electric mais aussi l'ex-Whirlpool à Amiens ou encore Ascoval dans le Nord. Dans le même temps, on célèbre aujourd'hui l'une des plus éclatantes réussites industrielles européennes. Airbus fête ses 50 ans. Le décollage, c'était le 29 mai 1969. Un accord commercial entre France et Allemagne pour la fabrication d'un avion européen. Ça se passait au salon du Bourget à Paris. Le ministre des Transports français s'appelait Jean Chamand.
C'est une importance considérable. Sur le plan économique, les industries aéronautiques de nos deux pays vont se rapprocher et travailler en commun à la réalisation d'un projet dont on parlera dans l'histoire du transport aérien. Nous voulons, du côté français, je suis sûr qu'il y a la même volonté du côté allemand, continuer à œuvrer dans le sens d'un rapprochement sur tous les plans, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, entre nos deux peuples et entre nos deux pays.
Invité de ce journal, un homme dont le rôle est notamment de faire travailler ensemble dans le domaine économique des professionnels de différents pays. Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Entrepreneur, vice-président du Conseil national du numérique, vous avez longtemps travaillé auprès de la Commission européenne. Il avait raison, le ministre de 1969, on en parle encore d'Airbus.
C'est clair, ça a bien marché.
Qu'est-ce qui fait que ça a si bien marché ?
Alors ce sont des gros projets industriels avec des investissements qui sont principalement des investissements tout à fait industriels. On est très très loin du monde du numérique et surtout on est dans des domaines où l'innovation est maîtrisée et incrémentale.
Incrémentale, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on améliore des processus qui sont déjà connus et on ne les révolutionne pas. Ça, c'est vraiment le propre de l'industrie aéronautique, comme de l'industrie automobile d'ailleurs.
Dit autrement, ça veut dire qu'on sait facilement prévoir l'avenir à court ou moyen terme dans ces domaines-là. C'est ça aussi qui a fait le succès d'Airbus.
Exactement. Ouais. On planifie sur du très très long terme, avec une compréhension assez fine de ce qui va se passer au cours des 5, voire 10 prochaines années.
Est-ce que c'est le cas pour dans le domaine des batteries, puisque en ce moment on parle beaucoup d'Airbus de la batterie ? Est-ce que c'est le cas dans le domaine de l'automobile, puisque le rapprochement Renault-Fiat peut être considéré comme un mini-Airbus de l'automobile s'il se confirme ? Dans ces deux domaines-là, ça veut dire que ça peut marcher aussi ?
Exactement, ça marchera probablement. On est sur des technologies qui sont de pointe, mais néanmoins extrêmement industrialisées, extrêmement maîtrisées. On peut prévoir la façon dont elles vont se développer dans les années à venir. Et donc, personnellement, je suis assez favorable à l'Airbus des batteries, comme on l'appelle.
Alors, votre domaine à vous, plus particulièrement, même si votre regard va au-delà, évidemment, c'est l'économie numérique, cette nouvelle révolution économique et industrielle. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a un Airbus à constituer ? Est-ce qu'il est facile à constituer ?
Alors, je pense que c'est beaucoup plus dangereux dans cet univers-là parce que on est dans un domaine où il y a beaucoup plus d'innovation de rupture, où les processus sont beaucoup plus des processus managériaux que des processus industriels. Et pour l'instant, les expériences qu'on a pu avoir à cet égard ont été des échecs. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les clouds souverains, qui ont en France avec comme nom Numergy et CloudWatts. L'État français a mis 240 millions dans ses projets et ça a été un échec retentissant.
Toujours en jouant de la comparaison entre Airbus hier et l'économie numérique aujourd'hui, quel rôle pour l'État ? Aujourd'hui, on a ouvert ce journal avec General Electric, on voit que bien souvent l'État est impuissant et intervient simplement pour colmater des brèches et a du mal à faire autre chose. Quel rôle les États ont-ils joué dans le succès d'Airbus de votre point de vue ? Et est-ce qu'ils auront un rôle à jouer s'il y a un Airbus du numérique ou de la nouvelle économie à mener ?
Alors, dans le succès d'Airbus, c'est indéniable. Les États ont eu un rôle à la fois dans la commande, dans la planification, dans la distribution industrielle et ça a tout à fait fonctionné. Dans le domaine du numérique, je pense qu'il faut absolument éviter que l'État se mêle de start-up. Encore une fois, lorsque ça a été tenté, ça a été un grand échec.
Pourquoi cela ? Pourquoi c'est un échec ?
Parce qu'on est sur des modèles d'innovation qui sont très particuliers et qui sont très rapides. Il faut être capable d'aller extrêmement vite. Et on n'est pas du tout dans la planification industrielle de temps long. La notion de temporalité est essentielle dans le monde de start-up. C'est complètement incompatible avec la culture de l'État.
Merci Gilles Babinet d'avoir répondu à nos questions et joué à ce petit jeu de la comparaison entre voilà l'industrie d'hier et d'aujourd'hui encore en ce qui concerne Airbus et l'économie du nouveau siècle. La fête est un peu gâchée hein, chez Airbus. Le spectacle aérien qui devait avoir lieu ce midi à Toulouse pour les 50 ans est annulé à cause de la météo. Alors Airbus, réponse très forte à ceux qui ne croient plus à la coopération, à la construction européenne. De quel poids réel les extrémistes, populistes, nationalistes, lepénistes vont-ils peser au Parlement de Strasbourg et Bruxelles dans les 5 ans à venir? Dans certains pays, pour mémoire, ils ont indiscutablement marqué des points aux élections de dimanche, Italie, Pologne, Hongrie, France, mais ils sont loin d'être d'accord sur tous les sujets. Jordan Bardella veut-il des migrants que rejette Matteo Salvini, par exemple? Les Européens de l'Est sont-ils prêts à travailler avec un rassemblement national jugé proche de l'ogre russe? Autre exemple, la constitution d'un groupe unique sera compliqué. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Maxence, vous êtes en direct de Bruxelles parce qu'une partie des eurodéputés RN et Marine Le Pen travaillent à la constitution de ce groupe aujourd'hui à Bruxelles.
Eh oui, fini les slogans de campagne, place aux arides négociations pour décrocher quelques sièges en plus et donc davantage de moyens. En ce moment, elle scelle une alliance avec les Espagnols de Vox qui ont obtenu 3 sièges. Elle a beau ne pas avoir été élue dimanche, Marine Le Pen tient à être ici pour tenter de garder le leadership sur le camp nationaliste dominé par la Ligue de Matteo Salvini. Et d'ailleurs, sa tête de liste Jordan Bardella et même l'ex-ministre Thierry Mariani sont absents aujourd'hui. Pour l'instant, leur compteur affiche, avant le Brexit, 76 eurodéputés contre 36 dans le mandat précédent. 2 fois plus d'élus, donc du plus petit groupe au 4e groupe du Parlement. La 3e place tant convoitée leur échappe, parce que certains alliés comme les Néerlandais ou les Slovaques ont perdu dimanche, parce que aussi les Polonais et les Hongrois au pouvoir ne veulent pas d'une alliance avec Marine Le Pen jugée trop radicale. Impossible donc de constituer un groupe unique, de former une majorité. Ils vont simplement compliquer la vie des partisans de l'UE et non pas démanteler Bruxelles, mais s'en servir comme d'une tribune.
Maxence Lambrec en direct de Bruxelles pour France Inter avec Romain Lucquens. Partout sur le continent, on continue de tirer les conséquences politiques des élections de dimanche. En Italie, Luigi Di Maio, les populistes 5 étoiles, complètement dépassés par la Ligue de Salvini. Luigi Di Maio demande un vote de confiance à ses adhérents. En Allemagne, réunion de crise chez les sociodémocrates après le bide de dimanche, moins de 16% des voix, 11 points perdus en 5 ans. Les Verts sont loin devant et du coup la politique écologique a mené créer des remous dans la coalition droite-gauche en Allemagne. Projet de loi climatique discuté aujourd'hui. En Grande-Bretagne, Boris Johnson devra peut-être répondre de ses mensonges lors de la campagne sur le Brexit devant la justice. Il devra se présenter devant le tribunal pour une audience préliminaire. On verra si ça ira plus loin. Et puis en France, il y a une espèce en voie de disparition. Ce sont les électeurs de la formation de Laurent Wauquiez, les Républicains. Une bonne partie de l'électorat conservateur a délaissé la liste Bellamy dimanche pour la majorité En Marche. Alors quand on tient une proie du point de vue de la majorité, il ne faut pas la lâcher. Dans un an auront lieu les municipales. La difficulté pour les marcheurs, c'est qu'ils n'ont quasiment aucune mairie. Pour cause, le mouvement n'existait pas aux dernières municipales. Il faudra donc convaincre des maires d'autres tendances de se rallier à la majorité. Ça, ce sera le job des macronistes venus de la droite en particulier. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, a posé la première pierre ce matin.
Moi, je refuse de laisser la droite aux identitaires et aux ultra-conservateurs. La droite, elle est bien différente. Et donc, j'appelle toutes celles et ceux qui se sentent de droite de venir rejoindre mes amis et moi-même à agir et de travailler d'une façon constructive pour bâtir demain des majorités de travail, de bonne volonté au service des territoires.
Bon, Franck Riester rappelle, c'était chez nos confrères de France Info, ils vont venir. Bonjour Karine Bécart.
Bonjour.
Ce ne sera pas si simple. Hein.
Non, ce ne sera pas si simple, même si l'opération, elle, a été facilement montée en concertation avec l'Élysée, en concertation avec Matignon. Le mouvement Agir a commencé à préparer cet appel dès lundi matin, c'est-à-dire quelques heures seulement après les résultats du scrutin européen. Tactiquement, c'est évidemment le bon moment. Les élus du parti Les Républicains ont pris, vous l'avez dit, un sérieux coup dimanche. Ils sont donc forcément quelques-uns à s'interroger, en particulier ceux qui ne sont pas en total désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron et qui ne sont plus en phase avec la ligne de Laurent Wauquiez. Voilà pour la théorie. Parce que dans les faits, maintenant, il n'y a et il n'y aura probablement pas d'arrivage massif d'élus LR vers le parti de Franck Riester. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un parti tout petit. Ensuite, parce qu'il n'y compte pas de fortes personnalités. Franck Riester, Frédéric Lefebvre, Laure de la Raudière, Agnès Firmin-Lebaudeau n'ont pas une capacité d'attractivité. Et puis surtout, au milieu de cette grande recomposition politique qui n'est certainement pas finie, pas question de prendre des risques et de se mettre en danger. Donc les maires sortant à droite partiront très vraisemblablement dans la bataille des municipales, sans étiquette, en mettant uniquement en avant leur nom et leur action.
Chaque jour, des Français partis faire le djihad en Syrie et en Irak, condamnés à mort. Un tribunal de Bagdad en a condamné un nouveau ce matin pour appartenance au groupe État islamique. Cela fait 7 Français condamnés à mort en quelques jours. Si vous n'avez pas suivi l'actualité en Israël depuis le 9 avril, date des dernières élections, vous pensez sans doute que Benjamin Netanyahou savoure son triomphe, un 5e mandat de Premier ministre, la perspective de rester au pouvoir plus longtemps que le fondateur de l'État hébreu David Ben Gourion. Eh bien, mauvaise pioche, depuis un mois et demi, Netanyahou n'est jamais parvenu à constituer une coalition avec des formations de droite plus ou moins extrêmes, de droite plus ou moins religieuses. Et il n'a plus que quelques heures pour le faire. S'il n'a pas réussi ce soir à minuit, de nouvelles élections législatives pourraient être convoquées. Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem, comme promis, vous êtes avec nous. Celui qui complique la vie de Netanyahou depuis un mois et demi, c'est son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman.
Qui avait déjà provoqué une crise politique en novembre dernier. Il avait démissionné du ministère de la Défense pour dénoncer le manque de poigne du Premier ministre dans sa gestion sécuritaire de Gaza. Cette fois-ci, l'ultranationaliste chevauche le thème de la laïcité. Il combat les positions des ultra-orthodoxes qui forment maintenant un bloc incontournable. Le blocage porte sur l'enrôlement des religieux dans l'armée. Lieberman dénonce tout simplement l'instauration d'une théocratie en Israël. Le sujet est centrale dans le pays, mais en arrière-scène, le russophone est soupçonné de vouloir se tailler un nouveau costume politique sur le thème de la droite dure laïque pour tenter d'élargir son audience après avoir été menacé de disparition lors des dernières élections. On le soupçonne aussi de vouloir régler des comptes avec le Premier ministre, qui est aujourd'hui menacé de perdre une élection qu'il a triomphalement remportée il y a moins de 2 mois. Il y a un peu plus de 2 heures, les députés israéliens ont ouvert le débat pour la dissolution de la Knesset. Le blocage semble sérieux, même si on sait qu'en Israël, une bonne négociation passe toujours par une bonne dramatisation.
Étienne Monin en direct de Jérusalem en Syrie. Au moins 13 civils tués ce matin dans les raids aériens des forces gouvernementales qui continuent sur la région d'Idleb. Et puis, je vous parlais de l'Irak à l'instant, cette dernière minute de l'agence France Presse qui cite le ministère irakien de la Justice. L'Irak renvoie près de 200 enfants de djihadistes turcs dans leur pays.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Entre utilité et risque de dérive, que penser de l'utilisation de nos données personnelles dans le domaine de la santé? Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Le comité d'éthique a rendu un avis mesuré sur ce sujet ce matin.
Oui, alors c'est toute notre personne, dans ce qu'elle a de plus intime, qui est stockée, partagée, utilisée par ces algorithmes de santé. Par exemple, comment garantir le secret médical? Eh bien, le comité d'éthique, bien sûr, en mettant en avant le respect de la personne, répond: on ne peut pas être hostile à ces technologies numériques si elles peuvent bénéficier à la santé de tous et aider à rationaliser les coûts. Il exprime donc un soutien fort à la recherche et au développement de l'innovation, mais il faut mieux informer. Ainsi, quand on parle de consentement éclairé, par exemple, vous acceptez qu'on utilise vos données pour la recherche, ça c'est le point de départ, mais savez-vous ce que ça devient réellement après? Pierre Delmas-Goyon est membre du comité national d'éthique, il est aussi magistrat et il insiste sur la nécessaire information du patient.
Ce que nous demandons, c'est qu'on ait une réflexion sur la notion même de consentement, parce que ces modalités évoluent énormément avec les technologies, et il nous paraît nécessaire, pour que ça soit un consentement éclairé, qu'il y ait une étude des technologies qui évoluent et de leur usage afin qu'on puisse adapter les choses le mieux possible. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que le consentement individuel, la personne est un peu démunie, elle n'a pas les moyens de contrôler. Tout le monde a besoin que le système fonctionne, les opérateurs pour mettre en œuvre leur traitement et le public parce que lui veut profiter des nouvelles technologies mais il ne veut pas que des atteintes trop fortes puissent être apportées à ses libertés individuelles.
Le comité affirme aussi l'importance de ce qu'il appelle une garantie humaine. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que dans toutes les étapes, il faut que l'utilisation de ces données reste une aide à la décision humaine. C'est bien l'homme qui doit décider et non pas un algorithme qui va conclure que non, ce n'est pas la peine de vous opérer. L'écoute du patient doit être préservée, les données ne remplacent pas le dialogue.
Merci Daniel Messager, on retrouve les détails de ce rapport sur franceinter.fr. Nous avons tous assisté à des scènes de ce genre, une dispute entre deux personnes dans la rue après un accrochage sur la route. Eh bien hier, c'était entre un chauffeur de bus et un automobiliste, ça s'est terminé en plein Paris par la mort d'un des deux, Sylvie Charbonnier.
Alors au départ, en effet, juste de la tôle froissée, ça se passe quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris, un bus touristique percute légèrement une voiture par l'arrière. L'automobiliste sort alors de son véhicule et s'en va discuter avec le conducteur du bus, sauf que la discussion dégénère, les deux hommes commencent à se battre à travers la vitre, tout ça sous l'œil médusé des passagers. C'est alors que le conducteur du bus redémarre et, tournant violemment vers la gauche, écrase l'automobiliste contre un autre bus garé en parallèle du premier. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, est mort sur le coup. Le conducteur du bus, âgé de 46 ans, a été placé en garde à vue. Son alcoolémie s'est révélée négative. D'après les informations de la préfecture de police de Paris, une cellule d'aide psychologique a été tout de suite mise en place pour les passagers du bus, dont on imagine le traumatisme. L'enquête est menée par la police judiciaire.
Allons à présent sur ce qu'on surnomme le chantier du siècle, chantier pharaonique de 35 milliards d'euros. Les travaux du Grand Paris Express vont s'accélérer dans les prochaines années. 4 nouvelles lignes de métro devraient voir le jour d'ici à 2030. En attendant, les tunneliers sont en action pour creuser le sous-sol francilien. Reportage de Yann Gallic pour France Inter à Bagneux sur le chantier de la future ligne 5. Nous allons aller sous terre.
Hélène mesure plus de 100 mètres de long, 10 mètres de large et recrache chaque jour 1800 tonnes de terre et de roches concassées. Hélène, c'est le prénom donné à l'un des tunneliers qui creuse les galeries souterraines de la future ligne 15. Pour accéder à cette gigantesque perceuse, nous descendons à 40 mètres de profondeur avec Michel Darcourt, l'un des responsables du chantier.
En face de nous, il y a le tunnel et donc on va avancer dans ce qu'on appelle le trou borgne.
Là, c'est l'avant du tunnelier, c'est-à-dire avec la grande roue qui creuse, la foreuse.
Voilà, là on est dans la chambre étanche qui est juste avant la grande roue. On a 12 moteurs électriques qui font tourner justement cette roue de coupe. Vous voyez, il y a une grande râpe à fromage de forme circulaire qui tourne, qui du coup concasse le terrain. Quand tout va bien, on arrive à creuser en moyenne 15 mètres par jour.
Une quinzaine de personnes peuvent travailler simultanément sur ce tunnelier. Dans la cabine de pilotage, Romain Amoros garde toujours un œil sur les écrans de contrôle.
Chaque écran correspond à une tâche. Là, c'est le guidage par laser. Là, c'est un peu toutes les pressions des vérins, de la roue qui avancent.
C'est une véritable usine, ce tunnelier.
Ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Quand on n'a pas l'habitude, même mes amis ou quoi, ils se rendent pas compte en fait de tout ce que c'est.
À terme, ce sont plus de 30 tunneliers qui creuseront les 200 km de galeries nécessaires à la construction du Grand Paris Express.
Reportage de Yann Gallic. Le mercato des entraîneurs en football, alors que André Villas-Boas a tenu sa première conférence de presse ce matin à Marseille, alors que Juninho, le grand Juninho, est de retour à Lyon dans un rôle de directeur sportif. Deux autres informations ce matin. Paul Le Guen est nommé manager sportif et entraîneur du Havre en Ligue 2. Et toujours en Ligue 2, Jean-Louis Garcia remplace Alain Perrin à Nancy. Et puis nous allons évidemment à Roland-Garros. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Joe Wilfried Tsonga et Corentin Moutet, deux Français sur deux cours différents. Oh là, ça applaudit.
Oui, ça applaudit parce que figurez-vous que Corentin Moutet se crée à l'instant même une balle de match face à Guido Pella, 23e joueur mondial. C'est un Argentin, c'est un spécialiste de la terre battue. Il a même remporté cette année le tournoi de Sao Paulo. Et figurez-vous que Corentin Moutet mène 2-7 à 1 et 5 jeux à 2 dans le 4e set. Pella est au service, mais 45 en faveur de Corentin Moutet, classé 110e joueur mondial, invité par les organisateurs. Peut-être un nouvel exploit d'un joueur français face ici donc à Guido Pella. Corentin Moutet qui est malheureusement n'arrive pas à concrétiser la première.
Oh, il nous a pas fait la victoire en direct.
Mais peut-être, on va faire le point très rapide sur le match de Joe Wilfried Tsonga qui est opposé à Kei Nishikori, le numéro 7 mondial. Et pour l'instant, 4 jeux à 3 en faveur de Kei Nishikori qui vient de faire le break. Donc il va servir pour confirmer ce break et mener 5 jeux à 3. Allez, la deuxième balle de match en faveur de Corentin Moutet. On va suivre ça tout de suite en direct en espérant qu'il se qualifie. Ce serait la première fois qu'il se qualifie pour le troisième tour. Corentin Moutet, âgé seulement de 20 ans. C'est un grand espoir du tennis français. Corentin Moutet, là pour l'instant, qui fait jeu égal avec Guido Pellaro en fond de court. Pour l'instant, aucun des deux joueurs ne veut céder, mais malheureusement, deuxième balle de match qu'il n'arrive pas à concrétiser.
Fabrice, on va passer au livre inter. On passe au livre inter et vous revenez dans deux minutes.
Moi.
Ok, allez. Ça marche. À tout de suite. Le temps de vous dire que c'est la finale de la Ligue Europa ce soir. Arsenal-Chelsea. Et puis, de parler avant la météo, de parler évidemment du livre inter. Comme chaque jour, notre rendez-vous avec le livre inter, notre présentation des 10 auteurs en compétition. Aujourd'hui, Franck Bouys, auteur de Né d'aucune femme, qui est édité par la Manufacture des Livres. Il sonde le visage du mal en racontant le destin tragique d'une femme qui s'appelle Rose.
La scène de départ, la première chose que j'ai en tête, je suis dans l'auberge, il y a ce maître de forge et Onésime, le père de Rose, et elle voit une bourse qui change de main, et puis un baluchon. La marchandise, en fait, c'est elle. Elle en prend conscience à ce moment-là.
Un père qui vend sa fille, nous ne sommes, je dirais, qu'au 19e siècle. Ça nous semble relever du conte, mais ces choses ont pu exister.
Ben, elles ont pu exister et elles existent encore aujourd'hui. On me rapporte au cours de signature que ce genre de choses s'est passé après-guerre.
Il y a une double aliénation. Il y a celle de la classe sociale et il y a celle d'être une femme dans votre livre.
Oui, bien sûr, oui, ça se rejoint. Mais une femme à cette époque-là, c'est évidemment, de basses conditions, c'est terrible. C'est un livre sur la puissance et sur l'impuissance. Vraiment, l'impuissance. Et cette idée du destin, vous savez, quelqu'un qui naît comme Rose, qui naît dans une famille de paysans, elle a un destin tout tracé, malheureusement. C'est-à-dire que, voilà, elle va théoriquement travailler toute sa vie pour pas grand-chose et mourir sans avoir ajouté grand-chose à ce qu'elle est au départ. Eh bien, moi, en fait, je m'aperçois au fur et à mesure de l'écriture que mon ambition aussi, c'est de contrarier ce satané destin, de le contrarier grâce à l'art.
Alors, il y a une chose qui est très importante dans votre livre, c'est d'une certaine manière, avec le peu de moyens qu'elle a, elle est une résistante.
Ah, mais totalement. Elle a trouvé le moyen de résister grâce aux mots. C'est son seul moyen d'exister. Elle va trouver une forme de rédemption. C'est-à-dire qu'elle, qui sait à peine lire et écrire, va être attirée par les mots d'abord et trouver le moyen de raconter son histoire et de jouer la musique de sa survie. En la racontant à sa façon, c'est-à-dire avec ses propres codes à elle. Elle qui ne sait pas qu'on revient à la ligne pour écrire un dialogue, par exemple, et qui est dans une espèce d'état d'urgence quand elle raconte son histoire.
Voilà, et l'entretien de Franck Bouys avec Eva Bétan est à écouter plus longuement sur franceinter.fr. Les 10 livres en course, vous pouvez en lire les premières pages sur franceinter.fr.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Une perturbation arrive par le nord-ouest et donne un après-midi gris avec quelques passages pluvieux. Ces pluies faibles vont progressivement se décaler en fin de journée vers le Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France. À l'avant de la perturbation, le ciel devient de plus en plus nuageux cet après-midi entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Poitou-Charentes. Et quelques averses peuvent se développer cet après-midi au nord de la Seine. D'autres averses bourgeonnent également sur les Alpes, le Jura, les Vosges. Et quelques gouttes peuvent aussi toucher le massif central et l'est de la Corse. Sur le reste du pays, le temps est plus calme et lumineux. Entre le Grand Est, les Pyrénées et l'Aquitaine, les nuages sont parfois nombreux, mais autour de la Méditerranée, le soleil brille généreusement sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane. Avant une forte hausse des températures d'ici à la fin de semaine, les maximales gagnent déjà quelques degrés cet après-midi, variant entre 15 et 22 degrés en général, avec jusqu'à 27 degrés autour de la Méditerranée.
Et comme promis, on retourne à Roland-Garros. Fabrice Abgral, est-ce que Corentin Moutet a accompli l'exploit? Il a gagné ou pas?
Ah non, il est toujours sur le court, Corentin Moutet. Il a bénéficié de 2 balles de match, mais malheureusement qu'il n'a pas pu concrétiser. Guido Pellaro est revenu à 5 jeux à 3. Moutet est au service pour la deuxième fois pour le gain du match, oui. Mais malheureusement 15-40 en faveur de l'Argentin. Donc occasion pour lui de revenir à 5 jeux à 4 services à suivre. Ah, il est en train de se crisper un petit peu là, Corentin Moutet, c'est dommage. Mais allez, on ne sait jamais, l'exploit est toujours là, possible.
À tout à l'heure Fabrice, et sachez que Nadal par ailleurs a gagné le premier set face à l'Allemand Madden, 6 jeux à 1, ça sent la piquette.